I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
L'épisode que vous allez entendre est rendu possible grâce à la marque de maroquinerie Le Tanneur. Je suis très heureuse de recevoir le soutien de cette maison emblématique qui célèbre ses 120 ans cette année. 120 ans de savoir-faire conçu dans ses ateliers parisiens. Pour fêter son anniversaire, la marque vous offre 15% de réduction sur toute commande passée sur le site letanneur.com. Avec le code chiffon, bien sûr. C'est l'occasion de découvrir la gamme iconique 1898, encore appelée sans couture, qui concilie élégance, histoire et modernité. Moi, j'ai choisi le sac 1898 en rouge pour pimper mon dressing en ce mois d'octobre. Place à notre invité du jour.
J'avais un parrain qui, pour moi, était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes, parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux, tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sap, chiffon, nip,
chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une voix de la radio que j'ai rencontrée sur le plateau de Canal+, lors de l'enregistrement de l'émission L'Info du Vrai, le mag. Le thème qui nous réunissait devant les caméras était la Fashion Week. Et j'ai tout de suite décelé en cette voix une relation particulière avec son dressing. Pourtant, son dada, c'est plutôt l'actu. Ce journaliste officie tous les matins sur Europe 1 pour nous décrypter la presse. Avant d'être journaliste, animateur radio et chroniqueur, ce grand monsieur d'1m89 a été DRH. C'est l'émission Arrêt sur image qui lui a mis le pied à l'étrier médiatique. Voyons qui se cache derrière cette voix, au ton souvent décalé et drôle. Mon invité est arrivé à notre rendez-vous, vêtu d'un pull col roulé marine, un jean gris et des boots. Bonjour David Abiker.
Bonjour.
Alors, ai-je eu du flair avec la mode ?
Un petit peu, ouais. Un petit peu. C'est pas que j'ai une armoire ou un dressing très fourni, en marque ou autre chose, mais la mode a toujours été présente à la maison, parce que ma mère était couturière.
Et puis, vous avez aussi 2 filles.
J'ai 2 filles, évidemment elles sont ados, donc elles sont assez sensibles à l'offre de prêt-à-porter pléthorique qui engorge les magasins et vide mon porte-monnaie.
Tout à l'heure, vous m'expliquiez que votre jean gris a une particularité.
Ah oui, alors j'ai un jean gris qui est en, je sais pas comment on appelle ça, en dénime extensible.
Élastane. Ou quelque chose,
en élastane, et c'est une matière très pratique parce que elle épouse vos formes et l'évolution de votre poids. Et donc je peux grossir comme je veux.
C'est marrant qu'un homme me parle de ça en fait.
Bah non, vous savez...
Souvent, c'est une obsession féminine. Hein.
Non, c'est déjà, le mot obsession est peut-être un peu fort, mais enfin, aujourd'hui, tout le monde surveille son poids parce que c'est bon pour la santé. Puis à partir d'un certain âge, il faut faire attention. Donc voilà, mais moi, j'aime bien ces jeans parce que je les trouve bien coupés.
Alors, j'ai lu plusieurs choses sur vous. J'ai retenu quelques petites anecdotes qui ont un lien avec les fringues et chiffons. J'ai vu que la première fois que vous avez cassé votre tirelire, c'était pour vous acheter un t-shirt jaune Nike.
C'est vrai, c'était dans les années 80. Nike était déjà une marque assez réputée. Je jouais au tennis à l'époque, et donc il y avait des marques de sport très populaires auprès des jeunes gens déjà, ce qu'on appelait le sportswear, et Nike en faisait partie, et je me souviens que pour aller jouer au tennis, j'aimais bien avoir mon t-shirt Nike.
Et est-ce que c'est vrai que le jour où vous êtes senti le plus ridicule, c'était avec un jean couleur neige ?
Rétrospectivement, oui, mais je pense que à l'époque où je le portais, je devais être très content de moi. Rétrospectivement, quand j'ai vu ce jean revenir assez rapidement provisoirement dans la mode il y a quelques années, je me suis dit, mon Dieu, cette horreur revient.
Et ça revient l'été prochain.
Ça revient l'été prochain, le jean neige en été.
Voilà.
Bon, bah, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique.
Pas mal. Et la chemisette Honolulu, vous en souvenez?
Ouais, mais ça, c'est plus récent, en fait. Enfin, j'ai eu une chemise hawaïenne dans les années 80 toujours, et j'en ai racheté il y a 2-3 ans à l'occasion de soldes chez Célio, et j'ai vu une chemise totalement bariolée et qui avait cet immense avantage, même si elle était de mauvais goût, c'est qu'elle coûtait 10 euros. C'était vraiment des fonds de carton, de stock, de je ne sais quoi. Et donc, je l'ai achetée, il y avait des flamants roses dessus. Et quand je l'ai mise, j'ai eu l'impression d'être un peu Magnum dans la série. Et je me suis pris pour Magnum, et donc j'étais très content de ma chemise hawaïenne. Vous voyez, ça tient un peu le bonheur.
Pourtant, votre chien Charlie ne ressemble pas tellement à Zeus et Apollon.
Non, Charlie, c'est un cavalier King Charles que ma femme m'a offert. Enfin, elle me l'a offert, elle nous l'a offert, sans mon consentement, quelques jours après la mort de mon père et les attentats de Charlie. Charlie et la supérette Cacher, c'était début 2015. Et mon père était mort un 24 décembre 2014. Et pour essayer de sortir du deuil et de cette période absolument mortifère et horrible, à la fois au plan individuel mais sur le plan collectif, ma femme est partie un après-midi, moi aussi je suis allé me balader. Quand je suis rentré à la maison, elle était revenue, et j'ouvre la porte, et derrière la porte, il y avait ce Charlie qui n'avait pas encore son nom, et c'est mon beau-frère qui a eu l'idée, vu que c'est un cavalier King Charles, de l'appeler Charlie, sans doute en hommage aux victimes auxquelles on pense, évidemment, mais aussi parce que c'est un cavalier King Charles. Et c'était un 10 janvier, et le lendemain, il y avait cette grande manifestation, Place de la République, et je suis Charlie, et tout ça, voilà. Donc c'est, je crois qu'il y a beaucoup de chiens qui s'appellent Charlie depuis cette époque.
C'est une très belle symbolique. Quel est votre style ?
Ben, je sais pas. Je sais pas. Vous savez, les vêtements... On s'y met comme ça, et puis il y a des vêtements qui vous collent à la peau, qui restent sur vous, qui reviennent, que vous portez tout le temps, et puis il y a ceux que vous achetez, que vous allez laisser dans votre penderie parce que c'est un coup de tête, du genre la chemise hawaïenne, mais vous n'allez pas les porter régulièrement. Donc moi, mon style, c'est plutôt des vêtements sombres, plutôt du bleu marine, du noir, du gris, et des boots. J'aime bien les boots.
Je reviens à la chemise. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était de mauvais goût. Pourquoi ?
Oh, parce qu'elle était un peu trop colorée, un peu trop bariolée. Mais chacun a son mauvais goût. Il n'y a pas de mauvais goût absolu, encore que. Mais tout de même, il y a des choses dont on se dit, bon, je ne mettrai pas ça pour aller au bureau, quoi.
Est-ce qu'il y a une tradition vestimentaire familiale chez vous ?
Oui, il y en a une. Il y en a une. Ça me vient comme ça, mais plus jeune, je piquais des chemises à mon père. J'avais la flemme de repasser les miennes, donc les siennes, il les repassait lui-même. Et donc, parfois, je lui piquais, et ça le mettait dans une rogne impossible, parce qu'il se levait le matin, il n'avait pas de chemise, il devenait dingue.
J'imagine.
Voilà. Mon père aimait bien s'habiller, il aimait aussi bien se déguiser, qui est quelque chose... le déguisement, c'est quelque chose qui m'a transmis, j'adore ça. J'adore me déguiser. Je me suis fait faire un costume léopard il y a quelques années, que je mettais dans des soirées karaoké, enfin un truc un peu dingue.
Mais pas au quotidien, pas pour aller bosser.
Non. Oui, là, et puis il y a ma mère. Ma mère a été...
C'était brodeuse.
Elle était brodeuse dans la haute couture. Elle a brodé,
chez le sage, on peut dire.
Voilà, elle a brodé chez le sage, elle a brodé chez le père du délinquant Jacques Mesrine, qui était un grand brodeur parisien dans les années 50 et 60. Et donc, elle maniait très bien ses techniques de broderie. Elle continue d'ailleurs, mais elle brode des tableaux aujourd'hui. Et donc, ma mère avait des mains en or, et elle a toujours été à la fois bricoleuse, couturière, décoratrice. Et elle s'est toujours habillée elle-même. Elle m'a même habillé, moi, une époque. Et comme un con, je voulais des marques. Et donc, quand ma mère me faisait
un
blouson...
Vous aviez quel âge à l'époque ?
Oh, j'avais 12-13 ans. Et quand ma mère me faisait un blouson ou une saharienne en jean, c'était jamais assez bien, c'était jamais aussi bien que les marques. Mais rétrospectivement, je m'aperçois que c'était bien mieux fait que certaines marques.
Monsieur. Vous avez grandi, si je ne me trompe pas, à Marseille ?
J'ai grandi en Normandie. Enfin, je suis né en banlieue parisienne. Ensuite, j'ai habité la Normandie. Et ensuite, mes parents, pour la période importante qu'est l'adolescence, ont vécu à Marseille. Donc moi, j'ai grandi adolescent à Marseille entre 1981 et 1987, qui est la date de l'obtention de mon baccalauréat.
Que pensez-vous justement du mythe de la Parisienne, puisque vous avez vécu à Marseille, vous avez grandi là-bas, en arrivant à Paris ? Est-ce que cette Parisienne est si différente de la Marseillaise ?
En fait, je crois que le regard qu'on porte sur la parisienne, quand on est un jeune homme ou un jeune adolescent, on comprend pas très bien ce qui vous arrive. Quand on regarde les filles, on peut en avoir peur, on peut les désirer, mais on n'a pas trop un œil sur la mode. On découvre. C'est un peu plus tard que l'œil de sociologue peut s'exercer et voir revenir des choses qui interpellent, qui accrochent le regard. Moi, je suis toujours assez intrigué par la mode féminine et notamment par ses tics, ou en tout cas par ce qui revient et qu'on voit porter et reporter par les femmes et de façon massive. Je pense aux jeans taille haute en ce moment, mais je pense aussi à la façon dont certaines femmes portent leurs pulls avec des manches trop longues, ces pulls qui leur recouvrent les mains. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une coquetterie? Est-ce que c'est pour mettre les bijoux en valeur? Est-ce que c'est pour rallonger la main, la raccourcir?
Vous voyez tout dans les détails, en fait.
Ouais, les détails m'accrochent, mais pas suffisamment, parce que les femmes entre elles regardent les détails bien plus pour celles qui s'intéressent à la mode, peut-être aussi un brushing, des boucles très 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 travaillées. Je suis aussi intrigué par aussi le développement massif du tatouage. Il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de gens tatoués qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui le tatouage, c'est le métro aux heures de pointe, hein. Il y en a partout.
Et vous feriez tatouer?
Non, absolument pas.
Et vos filles, vous accepteriez qu'elles se fassent tatouer?
J'ai pas grand-chose à accepter ou à refuser.
Elles ont, de mémoire, j'ai
15 et 19, mais pour moi, c'est 14-18. Elles sont fixées, à ces numéros-là.
Elles vont être contentes quand elles vont l'entendre.
Oui, elles savent. Hein. Elles savent que nous avons un conflit entre nous permanent qui est lié à ma vieillesse et à leur jeunesse. Alors, sur la mode et les filles, oui, non, je regretterais pour elles qu'elles se fassent tatouer.
Et justement, vous donnez votre avis sur leur choix vestimentaire?
J'ai essayé, mais ça ne sert à rien.
Ah, c'est pas...
Non.
Ou elles ne viennent pas vous dire, papa, regarde comment je suis habillée?
Non. Ah non, absolument pas.
Et avant
absolument
de sortir, elles se cachent, au contraire, pour
oui,
sortir?
Oui, elles ont tout fait. Elles se sont changées dans la cage d'escalier, elles ont piqué des affaires à leur mère, elles me piquent des affaires, elles me déforment des pulls. Tout est possible et c'est un conflit sans foi ni loi de leur côté.
Et de même avec votre femme, est-ce que vous lui donnez votre avis sur sa façon de se vêtir?
Elle me le demande.
Et si vous lui dites « je n'aime pas », elle le prend comment?
Alors, comment elle le prend? Ça dépend de la question. Est-ce que les questions sont orientées? Est-ce qu'une femme demande à son mari « comment tu me trouves » pour qu'il lui dise « je te trouve très belle » ou pour qu'il lui dise la vérité? C'est toujours une question de dosage et de psychologie.
Et à contrario, si elle vous dit « non mais j'aime vraiment pas comment t'es habillée ».
Ah, moi je l'écoute. Moi, je l'écoute.
Donc, vous voulez vous changer direct?
Ah oui, immédiatement.
Vous faites radio et télé dans la même journée. Comment choisissez-vous vos tenues, en fait? Donc, j'imagine que à la radio, c'est comme je vois, là, sportswear.
En fait, c'est assez important, en fait, à la radio, peut-être aussi important qu'à la télé, mais pas pour les mêmes raisons. Quand vous vous levez à 3h du matin et que vous allez faire une revue de presse à la radio et que vous allez trier dans l'information et les journaux des choses importantes, parfois plus légères ou plus futiles, mais enfin, c'est l'actu, donc ça déconne pas. Vous avez besoin d'être bien dans vos vêtements. Donc, il faut mettre effectivement ce fameux jean élastique qui va éviter de me ceinturer. Il faut mettre éventuellement un t-shirt avec un gilet par-dessus ou un pull. Il faut être bien. Donc, le vêtement de la radio est du matin, entre 3h et 9h. C'est un vêtement confort.
Et après, vous rentrez vous coucher, c'est ça?
Alors ensuite, je rentre, je me couche. À l'heure où nous parlons, je devrais être au lit, mais c'est...
Je ne vais pas vous retenir longtemps.
Ça ne va pas durer, oui, je sais. Et ensuite, pour Canal+, à Canal+, on ne voit que mon tronc.
La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez en costume.
J'étais peut-être en costume où j'avais un blazer ou une veste.
On vous habille?
Canal+, a tout ce qu'il faut pour m'habiller, mais je dois dire que je préfère m'habiller moi-même. Éventuellement, je leur emprunte une chemise si j'estime que la mienne est froissée ou tachée.
Je crois que c'est un problème avec leur passage. Hein. Deux fois, vous m'en parlez.
C'est Canal+ qui a un problème avec leur passage. Enfin, je veux dire, ils veulent que les chroniqueurs et les journalistes qui sont à l'antenne, et c'est bien normal, soient impeccables. Ça ne veut pas dire luxueusement vêtus, mais ça veut dire impeccable.
Pas un pli,
pas de rayures, parce que ça bave, et qu'ils aient un minimum de... Allez, j'ose pas dire d'élégance, mais enfin, que tout cela se tienne, quoi.
C'est vrai qu'il ne faut pas mettre de verre à l'antenne?
Du verre à l'antenne, j'ai jamais entendu ça, mais enfin, pourquoi pas? De toute façon, j'en mets très peu. C'est vraiment une des couleurs que je ne mets pas.
Alors justement, quel est le vêtement que vous ne porterez jamais?
je crois que je ne porterai pas de parka. Je veux dire la parka classique.
Avec la fourrure sur le col.
Non, parce que ça peut être une doudoune matelassée. Je crois que je porterai pas un parka sans forme, en fait. Vous voyez, le parka des hommes politiques, qui est un truc qui n'est ni une doudoune, ni une saharienne, mais qui est la parka sans forme pour faire du scooter ou des choses comme ça, qui peut être très pratique.
Hein. Protège.
Mais moi, j'ai besoin peut-être d'un vêtement qui raconte une histoire ou qui me permette de m'identifier à un héros, à un inspecteur, à un aventurier que je ne serais jamais. Mais voilà, donc... A contrario, un joli manteau, un beau blouson, un imperméable...
Quelque chose de bien structuré, peut-être.
Oui, plutôt, ouais. Plutôt.
Est-ce que vieillir vous fait peur?
Ah oui. Mais alors, vieillir me fait peur pour... en ce moment-là, je vais avoir 50 ans, et ce qui me fait peur, c'est de me dire, dans 20 ans, j'ai 70 ans. Ça, c'est un truc... parce que 70 ans, c'est pas n'importe quel âge. 70 ans, bon, on va vous dire « Ah, mais c'est jeune, c'est le début de la vieillesse, c'est formidable, etc. » 70 ans, c'est quand même le début des emmerdes. Mon père est mort à 74 ans. À 70 ans, votre espérance de vie devient petit à petit du bonus, quoi. Donc, se dire « Dans 20 ans, j'ai 70 ans, alors que j'ai pas vu passer les 20 dernières années » est un truc qui m'effraie assez. Parce que je trouve que la vie est belle, même si je suis hypochondriaque, même si j'ai tendance à m'angoisser pour un rien, c'est quand même... se sentir à peu près en pleine forme et se dire « Dans 20 ans, t'as 70 ans » est un truc un peu... sinon, les rides, je m'en fous un peu.
Mais parce que quand on fait de la télé, on voit que certains hommes de la télé se font botoxer. Hein.
Ouais, non, ça m'arrivera pas. Ça fait 10 ans que je me dis « Mais est-ce que je me ferais des implants ?» Est-ce que je me ferais des implants? Ah, vous voyez pas, vous. Parce que je suis face à vous, mais je commence à dégarnir assez franchement derrière. Et c'est un truc auquel je pense. Mais bon, voilà, plus le temps passe, moins j'y penserai, j'en suis sûr.
Que pensez-vous du mot « être à la mode » ?
C'est un mot absurde. Personne ne dit « j'ai envie d'être à la mode ». Personne ne dit « je suis à la mode ». Je crois qu'on le pense inconsciemment... Mais personne ne vous dira « je suis comme les autres ». Personne ne vous dira « je suis conformiste ». Personne ne vous dira « je suis à la mode ». Personne ne vous dira « j'ai acheté des Stan Smith parce qu'il faut les porter » ou « parce que les autres en ont ». La mode, c'est quand même la rencontre d'un secret intime avec un secret collectif.
Quel est votre dernier achat ? Mode, hein ?
Je crois que j'ai racheté des chemises parce que j'avais des chemises qui commençaient à être un peu élimées. Donc j'en ai acheté 4-5 d'un coup, des chemises blanches. Et de façon plus précise, ce doit être des boots chez un faiseur qui s'appelle Pete Sorensen et qui fait des jolis boots.
Faiseur, vous les faites faire sur mesure ?
Non, pas du tout, mais lui, il les fait.
Ah, d'accord.
Il les fait faire, pas sur mesure.
C'est un artisan,
enfin,
en fait.
Voilà, c'est un créateur. Voilà, c'est un créateur. Et donc, il fait faire en assez petite quantité, puisqu'il n'avait pas ma taille ni ma couleur en stock quand je suis allé le voir. Et donc, j'ai dû attendre 2 mois pour les avoir. Ça ne veut pas dire que c'est un produit de luxe, mais enfin, il les fait faire en Italie, dans un cuir spécial. Et
vous privilégiez la qualité à la quantité ?
Si on peut avoir les deux, c'est sûr.
Et quel est votre prochain achat, là ? Est-ce que vous avez un truc un peu target en disant « Ah, je veux absolument
Non, parce
ça.
Que je trouve que là, vous voyez, je me suis aménagé un placard parce que je me lève le matin très tôt. Et donc, ce placard, il a fallu que je le sorte de la chambre conjugale pour ne pas réveiller ma femme quand je me lève le matin tôt. Et donc, je me change à l'autre bout de l'appartement dans ce qu'on peut appeler un dressing, ou en tout cas un endroit où il y a des placards et rien que des placards. Et quand je vois la tonne de pulls, de fringues, enfin de pantalons, de chemises, de trucs, je me dis, bon, ça suffit, quoi. Ça suffit. Mais on dit ça, et puis de temps en temps, on craque. Mais là, je vois pas... J'ai pas d'envie particulière parce que j'ai une tonne de trucs basiques, comme on dit.
Donc vous êtes plutôt raisonnable dans votre rapport aux fringues.
Ouais, ou si j'en achète beaucoup, c'est toujours pas cher en fait. J'achète des trucs pas très chers.
Quels sont vos spots fringues justement ? Vous pouvez citer des marques.
Hein. Ah ouais. Écoutez, j'aime bien les pantalons chez Célio parce que vu ma taille et vu leur coupe, c'est idéal. J'ai jamais à faire d'ourlet, ils sont toujours bien coupés. Donc Célio, je trouve ça vachement bien. Pour les chemises, je m'en fous. Pour les vestes...
Ah, c'est rare pour un homme. Beaucoup aiment... regardent le col, les manches...
Oui, on regarde le col, les manches. Mais enfin, une fois que vous avez choisi votre col et votre couleur... Non, ce qui est important pour les chemises, c'est qu'elles soient assez longues. Et aujourd'hui, les chemises... Autrefois, les chemises vous descendaient jusqu'à mi-cuisse. Les chemises d'hommes descendaient jusqu'à mi-cuisse. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de tissu. C'est un peu tristounet. Des chemises qui permettent de pouvoir se baisser sans sortir la chemise du pantalon. Et ça, c'est plus compliqué.
Subtil.
Subtil et pratique et de bon sens, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai... Attendez.
Qu'est-ce que c'est là ? J'ai un trou de mémoire.
Ah là, il n'y a pas de caméra, on ne peut pas voir. Je précise, David se lève et veut me montrer quelque chose.
J'ai un trou de mémoire, non, mais il y a un gars chez qui je vais, mais j'ai oublié son nom, bon Dieu.
Bon, vous achetez plutôt en boutique qu'en ligne ?
Ah non, les deux.
Les deux aussi ?
Les deux, ouais. Des tennis, par exemple, ou des baskets, je vais les acheter en ligne une fois que je connais la pointure correspondante. Non, j'ai acheté des cintres. Sur Internet.
Des cintres.
Ouais, des dizaines et des dizaines de cintres parce qu'il m'en manquait. Donc ça, je vais l'acheter sur Amazon, évidemment. Principalement, je vais éventuellement acheter des chemises sans col pour l'été en lin. Je vais les acheter sur Internet. J'aime bien Internet pour acheter des trucs qui coûtent pas cher. Mmh. Des chemises à 20 balles pour l'été, des choses comme ça.
Quelle est votre définition de l'élégance ?
Mais c'est une chanson, en fait.
Ah, c'est la première fois qu'on me le dit.
Ouais, c'est une chanson de Serge Reggiani qui s'appelle « Ce monsieur qui passe ». Je peux vous en lire quelques passages, parce que je trouve que c'est une chanson magnifique. Sur l'élégance, elle est toujours sur quelqu'un d'autre, je trouve. En ce qui me concerne. Mmh. C'est-à-dire que je me sens rarement élégant en me disant « t'es tiré à quatre épingles, que t'es chic, etc. » Ça m'arrive deux fois par an.
Pourtant, j'avais lu dans une interview que la première fois que vous êtes trouvé élégant, c'était un mariage parce que vous portiez un costume.
Oui, j'avais 18 ans, et effectivement, mais dis donc, vous avez creusé, c'est vrai.
Je creuse, c'est vrai.
Mais c'était un mariage, et c'était il y a très longtemps, et cette sensation que le costume vous habillait, j'avais une cravate, je venais d'avoir mon bac.
C'est le début de la maturité, non ?
Ouais, je me disais, t'es un petit homme, chouette. Alors, ce monsieur qui passe, Serge Reggiani, c'est lui qui la chante, mais il ne l'a pas écrite, je ne sais pas qui l'a écrite. Cravate à pois, chaussures en daim, ce monsieur-là connaît bien son solfège. Il joue comme un Chopin, des nocturnes en arpège. Coupe au rasoir, ongles soignés, montre en sautoir, parfum discret, ce monsieur-là a la taille rêvée pour marcher dans la foule sans lever le nez. Et je voudrais être ce monsieur qui passe et ne me voit pas, avoir ce regard où je ne vois trace du regret de qui, de l'ennui de quoi, qu'il me fait envie, que je voudrais être ce monsieur qui passe et qui n'est pas moi, moi dont je suis là, dans qui je m'empêtre, que je n'aime pas. Je voudrais être ce monsieur qui passe. Il a le sourire des gens satisfaits et dans sa tête, d'où rien ne dépasse, tout est à sa place, tout est rangé. Voiture de sport, ski à Morzine, yacht aux Açores, le grand standing, je quitte tout, je veux vivre sa vie. Et puis je m'offre la mienne à n'importe quel prix, museau fripé, nez en avant, sourcils fâchés, les yeux tombants, mes folies douces et mes peines de cœur. Allez, je brade tout, le pire et le meilleur, que je voudrais être ce monsieur qui passe, etc., etc. C'est pas mal, hein.
Très beau. Qu'est-ce qu'une femme élégante pour vous ?
C'est un poème. C'est un poème. C'est le poème de Baudelaire. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te reverrai-je plus que dans l'éternité. Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. C'est ça l'élégance.
C'est très beau. Pour cette troisième saison de Chiffon, je termine toujours par un petit questionnaire de Proust à la Chiffon.
D'accord.
C'est très rapide, attention, ouais. Ne réfléchis pas.
Ah ouais,
si vous étiez une couleur...
Bleu.
Si vous étiez une chaussure...
Une boots.
Si vous étiez une matière...
Allez, du velours, comme ça, alors que j'en porte pas beaucoup.
Si vous étiez un accessoire...
Ma montre.
Elle a une histoire, cette montre ?
Non, pas particulièrement.
C'est votre outil au quotidien,
voilà,
j'imagine.
Ouais.
Si vous étiez un parfum ?
Si j'étais un parfum, je serais celui que je porte en ce moment. C'est pour un homme de 40, sport.
Si vous étiez un pull.
Un pull en cachemire, c'est doux. Et j'ai découvert ça sur le tard quand j'ai eu les moyens de me les offrir, donc il y a très peu de temps. Et voilà, c'est doux, c'est sympa, et c'est pour ça que mes filles me les piquent.
Si vous étiez une femme.
Eddie Lamar.
Pourquoi ?
Eddie Lamar, elle a une histoire incroyable. Elle est née, je crois, en Autriche. En Autriche, elle a voulu faire l'actrice tout de suite. C'est la première femme qui, je crois, devant une caméra dans les années 20, à l'âge de 18-19 ans, va simuler l'orgasme féminin. Ça va faire un scandale.
C'est osé.
Son père lui dit « on rentre à la maison » parce qu'elle est allée voir le film avec son père et ses parents. Il lui dit « on rentre à la maison » et puis elle dit « moi, je vais faire du cinéma ». Elle rencontre dans les années 20 des gens qui lui disent « oui, tu vas faire du cinéma ». Et puis elle traverse l'Atlantique dans les années 30. Mais si, je vous raconte de mémoire un podcast de France Culture absolument formidable. Et elle arrive à Hollywood, elle fait des films à Hollywood. Et c'est une femme qui avait la langue bien pendue et qui voulait devenir productrice, ce qui était impossible à l'époque. Donc elle va devenir productrice, elle va rencontrer un gars qui va un peu la coacher, on lui dit faut te faire refaire ceci, te faire refaire cela, elle refuse. Pendant la guerre, elle va inventer des systèmes de brouillage avec ce complice qu'elle va proposer au sortir de la guerre à l'armée. On va lui dire non, on veut pas de tes inventions. Elle avait un atelier où elle bricolait. Elle adorait bricoler. Et puis, sa carrière à Hollywood va se terminer au début des années 60, fin des années 60. Enfin, Eddie Lamar, c'est quelqu'un. Et d'ailleurs, quelqu'un qui revient aujourd'hui, je crois que Pénélope Bagieu lui a consacré quelques planches de bande dessinée, comme une femme puissante, une actrice glamour, mais pas seulement, une fille entreprenante.
Une femme indépendante.
Indépendante aussi, qui a collectionné les amants. Enfin, il y a 1000 anecdotes sur Eddie Lamar. Et en plus, ce nom un peu spécial. Eddie Lamar, c'est quelque chose.
Merci infiniment, David.
Merci à vous.
Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, Le Tanneur ainsi que le magazine Gradia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.